Eh bien, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de Radio Bartas sur ce créneau conférence. Aujourd'hui, c'est une conférence de presse de Majid Scherfi. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est un écrivain, auteur et chanteur des paroles du groupe Zebda de Toulouse. Donc, la conférence concerne sa tournée en Lozère, Zebda et Majid.
Vous cumulez plusieurs travaux d'écriture, un documentaire, des chansons. Comment vous en êtes devenu de Zebda à des projets un peu plus personnels comme ça?
En fait, les projets personnels ont commencé avant Zebda. Parce que j'étais animateur de quartier. À 14-15 ans, j'étais déjà animateur de quartier. Animateur improvisé. Et donc j'étais là avec des potes et puis on s'est dit, tiens, on va faire du soutien scolaire. Tous ces mômes, ils sont nuls partout, c'est le désastre. Et donc, les interventions au collège, à 15-16 ans, on était déjà là pour, sous des prétextes ludiques, ramener un peu d'orthographe, un peu de conjugaison, de grammaire, de syntaxe. Alors, dans les quartiers, il y a toujours 3-4 bons éléments scolaires. Et on oublie ça, en fait, c'est que on parle beaucoup de l'échec des quartiers populaires, etc. En vérité, il y a toujours une petite bande comme ça, un super parcours universitaire, danse classique, musique, musicien, des littéraires. Et dans le milieu du quartier, il y avait cette bande de deux filles, trois, quatre garçons. Et notre idée, comme finalement dans plein de quartiers, ouvrir un soutien scolaire et l'intervention... comme ça, dans les collèges, les lycées, toutes sortes de structures, elle a commencé en fait avant même l'idée de la musique.
Vous avez rencontré comment vos deux coéquipiers chanteurs?
Le lycée.
Lycée.
Le lycée. Tout à coup, moi, j'arrive au lycée et entre midi et deux, je vois des mecs qui jouent. J'avais jamais vu d'instrument de musique de ma vie. De gens écouter de la musique à l'état pur.
Faites sur le moment.
Sur le moment. Et alors c'était des punks, c'était le début des années 80, donc ce qu'on appelait le rock alternatif. Et donc c'était la fournaise. D'abord le boucan, on verra les notes après. Et j'ai trouvé ça m'a parlé. Parce que la musique, pour qui veut en faire, c'est quand même une initiation. Et là, tout à coup, il y avait la possibilité de faire quelque chose en ne connaissant rien à la musique. Et ces mecs-là ne connaissaient pas la musique. Ils jouaient à l'oreille. Et donc, ils connaissaient deux, trois accords. Et je suis rentré là-dedans. Et j'ai dit, moi, j'écris, les gars. Alors, tu chantes. Et j'ai été chanteur parce que j'écrivais.
Ça vous a appris quoi, toute cette expérience avec Zebda? Est-ce qu'ils ont ressenti quelque chose sur...
Je dirais que ce qui me paraît aujourd'hui avec le recul essentiel, c'est l'apprentissage de vivre ensemble. C'est-à-dire la grande épreuve de l'humain, vivre avec l'autre. Et là, on n'était pas que des beurs et des blancs, il y avait aussi des pauvres et des classes moyennes, il y avait aussi des gens de gauche et des gens moins de gauche. Donc on avait tout ce qui fait qu'on ne peut pas être ensemble, a priori. Et la musique, pour l'amour de la musique, on a fait les compromis nécessaires jusqu'à la compromission. On a basculé dans le compromis automatique au nom de la musique pour rester ensemble. Et donc c'est jusqu'où je suis prêt à aller ou jusqu'où c'est possible d'être ensemble.
Il y a eu des clashs, justement, par rapport à cette mixité au début?
Il y a eu toutes sortes de clashs idéologiques, esthétiques. Moi, par exemple, je voulais qu'on bascule dans la chanson française. Moi, c'était Brassens, Brel Ferré. L'autre disait, moi, c'est la Jamaïque, c'est Bob Marley. L'autre disait, moi, c'est les Rolling Stones, rock anglais blanc. L'autre disait, moi, c'est la funk new-yorkaise, noire et combattante et combative. Et on a fait le tout. Et on a tout fait. On a fait accordéon et guitare pour moi, des musiques très funk pour d'autres, des choses très guitare électrique pour... Et comment tout ça, sans oublier la musique maghrébine. Kakil Mousse et moi, on voulait des références orientales. Ah ouais, alors qu'est-ce que tu proposes? Alors je prenais une derbouka. Mais c'est quoi ça? Eh bien, c'est de la musique, c'est du rythme, c'est un rythme maghrébin. Ils se sont initiés à la rythmique orientale. Et les résultats ont été plus ou moins heureux. Donc des fois, des choses dont on était fiers, et d'autres, c'était vraiment pas bien. Mais l'aventure Zebda, pour moi, c'est plus que la musique. C'est comment on reste ensemble. Au fond, plus intéressant que la musique qu'on a faite.
Et donc on reste dans cet esprit de citoyenneté, de partage de valeurs samedi ?
Toute la semaine,
alors,
si j'ai bien compris.
Oui, puisque grosso modo, tout ce que j'ai pu écrire tourne autour de cette thématique. Et avec des variations, le concert est une chose, les lectures, voilà, c'est plutôt un versant littéraire, même si j'ai un petit peu de musique, puisque je suis accompagné d'un pianiste. Mais oui, c'est ça, c'est soulever des lièvres, montrer l'horreur du monde, la saleté de l'humanité, l'impossibilité à faire la fraternité. Donc c'est l'espoir de la fraternité mêlé de quelque chose de désespéré. Donc on rit, on pleure, on n'y croit pas, tout en gardant... On est dans l'obligation d'un idéal, la fraternité. Et en même temps, nom de Dieu, c'est pas demain la veille qu'on va y arriver. Je dirais que c'est un petit peu ça, mon topo. Le
documentaire porte aussi un petit peu ce message ou...
Alors le documentaire, il est beaucoup plus... son intérêt, il est beaucoup plus dans l'intime. Puisque j'en ai toujours eu assez qu'on me prenne pour un militant. D'ailleurs, partout où j'ai été, c'est « Ah, vous militez, vous bataillez, vous militez. » Et j'ai fini par me dire « Mais j'ai envie de dire aussi que j'aime. » Il y a des gens que j'aime, il y a ma mère, il y a mes frères, il y a mes amis, il y a ma femme, on a des sentiments. Et le sentiment n'est pas la moindre des batailles. Partager avec autrui des sentiments, ça tombe pas des nues. Aimer, c'est aussi l'idée de l'équité, de l'équilibre, et donc un combat. Et donc l'amour est un combat. Et ce réalisateur, Rachid Oujdi, m'a entendu un jour dire « j'en ai marre qu'on me dise « on ». Et c'est vrai qu'on me disait « vous luttez, vous êtes un groupe, vous êtes une équipe de foot, vous êtes un parti politique, vous êtes motivé, vous êtes les beurs, vous êtes les quartiers ». Il dit « mais moi, pourquoi est-ce qu'on ne me dit pas « toi, tu » Oui, je ne suis pas forcément tout ce qui apparaît. Alors dans Zebda, par exemple, on n'était pas sur la même longueur d'onde. D'en motiver le mouvement politique, j'étais pas sur la même longueur d'onde que d'autres. Je portais plus dans le rose, alors que mes copains portaient plus vers le rouge. Et pour moi, c'est important. Parce que moi, c'est pas ce qu'on croit de moi. Et donc, ce document, il est intéressant parce que il dévoile l'intimité. Majid. Et ce gars a entendu, ce réalisateur a dit, tu voudrais qu'on t'appelle Majid? Oui. On m'appelle Zebda, moi, dans la vie. Quand c'est pas chemise.
C'est vrai, non.
Il m'a fallu 150 boîtes de Doliprane et 3 psychanalystes pour me dire, ça peut s'accepter. Tu peux vivre en t'appelant Zebda, vous croyez? Mais c'est pas un cri. Il n'y a pas mort d'homme. Oui. Mais moi, j'ai intellectualisé. Pourquoi le monde ne m'appelle pas Majid?
Avec ton identité.
Oui. Et ce réalisateur disait, j'aimerais bien que tu me montres ce Majid en question. Donc la bataille, c'était de montrer l'individu plus que ce qui est plaqué. Le chanteur, le militant. Et là, donc, il y a le père, l'aimant. Et par moment, le documentaire montre assez bien ça. Parce que le problème, quand on est dans... Moi, j'ai appartenu qu'à des groupes. Quand vous êtes un artiste en solo, bon, c'est vous. Mais quand vous êtes dans un groupe, moi, ça ne m'allait pas, quoi. Je veux bien être dans un groupe si la part individuelle émerge. Et toute la difficulté, c'est comment faire émerger des individus, mais en même temps, le groupe. Alors ça, c'est la difficulté qu'on a tous, mm-hmm. quand on appartient à quelque groupe que ce soit, et qu'on veuille quand même exister en individu.
Ça peut se ressentir quand il y a des chansons qui sont chantées uniquement par une personne du groupe. Parce que tu as choisi de chanter cette chanson, par exemple. Ça, peut-être que moi, en tant que public, je peux ressentir que c'est Majid qui chante cette chanson, qui l'a choisie. Et donc, je peux ressentir l'individu, mais dans le groupe.
Un petit peu. Loin de ce que j'aurais voulu sur ces 30 dernières années. Puisque, je vous dis, aujourd'hui, je sors de chez moi le matin, quelqu'un passe en voiture, il descend sa vitre et il fait « Chemise !» 20 ans après, ma rue donne sur une grande circulation. Je ne veux pas vous dire tous les matins, mais 2-3 fois dans la semaine, c'est « Chemise » qui sort. Puis après, c'est Zebda, puis après, Motivé, puis après, toutes sortes de trucs. Autant, par exemple, mes camarades, ça ne les choque pas plus. Moi, j'avais cette... Peut-être un ego un peu surdimensionné. Je suis Majid. Et donc, je me suis battu pour inventer des choses, vous l'aurez marqué, Majid. Alors, le documentaire, c'est la tentative du versant intime, qui est un combat politique. Donc, l'intérêt... Donc, j'ai eu envie de faire ce truc-là.
Il a fallu attendre la fin de Zebda pour que, justement, que apparaisse cette image individuelle de vous. Enfin, en tant que Majid et pas en tant que chanteur, justement.
Oui, parce que il nous a fallu des années pour construire le groupe. Et j'ai toujours eu peur... En évoquant cette idée de moi, de déstabiliser le groupe. Donc pendant très longtemps, pendant des années, j'ai tué mes velléités perso. Très tôt, j'ai eu envie d'écrire des livres. Très tôt, j'ai eu envie de chanter seul. Très tôt, j'ai eu envie de faire d'autres choses. Et comme le groupe était en construction, c'était où j'œuvre pour le groupe, et donc je me tais et je me plie à la volonté générale. Et au bout de 20 ans, on se dit, bon, il est temps quand même de dire aux copains, je voudrais faire quelque chose seul. Et le seul est tabou, parce que si tu le fais seul, c'est que tu es un peu de droite. Et quand on est de gauche, on est collectif. Donc il y avait le tabou idéologique. Et tu chantes pas pour toi, tu chantes pour la cause. Tu chantes d'ailleurs même pas pour nous. On n'a pas inventé Zebda, ce qui était vrai. Parce que le postulat du groupe au départ, c'était d'être une dynamique politique, pas artistique. On s'en fout de la musique. On est là pour porter le message. Et donc, on était embringués dans ces vieilles lunes 68ardes qui étaient, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à la cause. Et donc, quand toute la famille est dans cette infection-là, comment exister? Et puis après, vous prenez votre courage à deux mains et vous dites, non, je ne suis pas rouge, je suis rose pâle. Social traître! Au bûcher. Intéressant. Alors que d'autres groupes font de la musique pour la musique. Nous, on l'a fait pour faire de la politique, pas pour faire de la musique. Et ce qui est assez pervers.
C'est un outil de communication, la musique, de toute façon.
Hein?
Enfin, un outil de communication qu'on peut utiliser pour...
Oui, c'était ça. Mais de communication politique. On n'est pas là pour distraire. On est là pour éclairer. Et on avait un postulat prétentieux, éclairer les foules.
C'est-à-dire être arrivé soi-même à une certaine lumière.
Oui.
Bon, vous savez, c'est notre postulat aussi, non?
Oui, oui. Oui.
Et du coup, maintenant que vous avez eu ce courage et que vous vivez cette carrière solo, c'est une sérénité trouvée ou
C'est la continuation d'un parcours. Ouais. Être seul n'est pas une fin en soi. Après, dans l'idéal, c'est... dans l'idéal... Être à la fois d'un groupe, parce que on se doit de développer l'idée collective. Mmh. Est-ce qu'on peut être ensemble? Et quand je dis être ensemble, c'est black, blanc, beurre. C'est possible ou c'est de la merde? Si c'est pas possible, alors évidemment, ça semble, le postulat paraît périlleux. Mais dans le monde dans lequel on vit, on se dit, tiens, c'est pas demain la veille. Et il faudrait que je garde ce titre, moi je vais me le doter. Pas demain la veille, je vous l'emprunte. Retenez-le parce que je vais le sortir quelque part, ça. Je crois que ça me va bien, ça. Pas demain, la veille. Merci, Bébert.
Et ça vous désespère que ce soit pas demain la veille?
Oui et non. Ça ne me désespère pas parce que je suis l'itinéraire d'un enfant gâté. Mes parents m'ont aimé, protégé, choyé. Ils m'ont remis entre les mains d'un tas de gens qui m'ont éduqué, élevé, choyé. J'ai eu accès aux meilleurs livres, aux plus beaux films. J'ai vécu de ce dont je rêvais d'écrire. J'ai fait de la musique, on a eu du succès. J'ai eu une vie baignée de privilèges. Donc, je serais mal placé pour dire « Oh, que ce monde est horrible !» Et en même temps, tout ça dans l'horreur d'un monde qui est incapable de vivre dans la fraternité. Moi, j'ai toujours vu mes parents effrayés par les Français. Parce qu'en 60 ans, ils ont toujours considéré qu'ils n'étaient pas chez eux et que les Français n'attendaient qu'une chose, c'est qu'ils dégagent. Alors il y a quelque part une colère à l'état pur. De c'est quoi ce pays qui fait en sorte que des dizaines et des dizaines de gens se sentent illégitimes. Et puis moi, qui à 15 ans, lisais Flaubert. Donc entre mon père, mes parents et moi, il y avait 5 siècles d'écart.
Dans une de vos interviews, vous dites qu'il y a eu un... On vous a considéré comme un traître par la cité où vous étiez. Quel rapport vous avez maintenant avec ceux qui ont pu être vos amis d'enfance?
Alors, il y a très longtemps que je n'ai plus de rapport avec les quartiers. D'une part parce que la musique, elle nous a emportés. On est parti en tournée, on a perdu la cité de vue. Et après, si vous voulez, quand vous êtes dans des milieux défavorisés, vous n'êtes jamais félicité de vous en être sorti. Celui qui s'en sort, on trahit un quartier, on ne s'en sort pas.
Donc encore cette notion d'individuel dans le groupe
oui, qui doit évoluer oui, en même temps. Oui, notamment dans des milieux défavorisés, parce que nous on est en galère, pourquoi toi tu t'en sors? Et comme ces gens-là sont dans des échecs de vie, on n'admet jamais celui qui réussit. Et donc vous êtes le traître, de fait.
C'est plus vrai aujourd'hui qu'avant ou...
Pour moi, c'est pareil.
C'est pareil.
Oui, parce que les quartiers restent quand même des zones à taux d'échec important, scolaires, professionnels, identitaires, familiaux. Ça reste quand même des zones d'échec importantes. Et donc, quiconque réussit, on fait croire qu'on félicite. Ne croyez jamais les félicitations d'un mec en état d'échec, félicitant je ne sais quel comique ou footballeur ou artiste. Ça, c'est pas vrai. On ne pardonne pas. Si vous en êtes sorti, c'est que vous avez abandonné le groupe et que vous avez trahi. Il n'y a pas d'autre justification. Alors, moi, évidemment, tout en m'en sortant, en criant « Vive la France, vive la République », étant devenu athée, bouffeur du curé, d'imam et autres rabbins, évidemment, dans des milieux musulmans, ça ne se passe pas. Et donc j'étais doublement un traître puisque j'abandonnais et la religion, et le quartier, et l'identité, puisque voilà, je me suis identifié au patrimoine gaulois dans ma revendication, que ce soit à travers Brassens, Flaubert, ou dans le cinéma français, celui qui a réalisé François-Claude Sauté.
François-Paul et les autres.
François, Paul et les autres. Donc moi j'ai eu cette revendication-là. Mais qu'est-ce que tu fais à revendiquer du blanc? Du gaulois, du blanc. Donc j'étais, en plus de tout ça, j'étais dans cette identification-là. Voilà les raisons du traître.
Du coup, ce serait quoi l'amélioration interne au quartier?
L'amélioration
interne au quartier.
Le jour où la République décidera que ces quartiers font partie d'elle, peut-être ça ira mieux. Parce que le grand problème, c'est qu'ils ont été abandonnés par la République. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas des gens qui refusent la France ou la francité. C'est qu'on les a abandonnés. Notamment en les laissant habiter par centaines dans des cages à lapins, entasser des familles de même culture, de même difficulté, etc. On croit qu'ils vont en sortir quoi ? de ces banlieues. Il y a au fond comme quelque chose au-dessus de nous qui dit à tous ces mômes issus de l'immigration africaine ou maghrébine, t'es français, mais t'es pas chez toi. Je crois que le message de la République de ces dernières décennies, il ressemble à peu près à ça. Ils veulent tellement être français, ok, on va leur donner une carte d'identité, mais c'est pas la carte d'identité qui fait le français. Ils l'ont compris tellement bien que quand ils vont chercher un boulot, quand ils vont chercher un appart ou quand ils veulent aller en discothèque, la carte d'identité française, elle peut pas grand-chose quand on interdit aux Noirs et aux Arabes d'y accéder. Et donc évidemment, c'est la République qui déconne. Elle émet des principes, égalité, fraternité, liberté, qui tout à coup, dans le réel, ne valent plus rien. Dans la loi, tu as le droit d'avoir un appartement, mais si tu es noir, tu nous excuseras d'avoir 10 fois plus de difficultés qu'un blanc. Et tout se déplie comme ça. Et donc, on est là devant la loi, on ne sait plus quoi faire, mais elle prétend à l'égalité. Et dans le réel. Et donc, tu as toute cette nouvelle génération qui arrive en disant à la République, fuck, c'est une arnaque inventée par les blancs, l'égalité des droits, pour nous tenir à la laisse. Et donc, il y a une espèce de perversion qui fait que ce qui était censé provoquer une fraternité, la République, elle provoque le contraire. À force de ne pas tenir ses promesses, c'est devenu aujourd'hui, pour la nouvelle génération, l'arnaque des Blancs envers les Noirs et les Arabes. Et après on dit, mais pourquoi ils se tournent vers l'islam ? Bah, promesses non tenues. Bon, je ne suis pas sûr qu'à la sortie de cette interview, vous partiez en vous tenant les côtes. Mais c'est intéressant quand même.
Alors, imaginez un petit résumé de ce qui va se passer cette semaine.
Donc, il y aura la diffusion d'un documentaire qui s'appelle « Moi, Magie de chère fille », qui va me montrer sous un jour intime. Alors, ce qui est intéressant... C'est pas uniquement de me voir dans l'intimité, mais c'est de comprendre que l'intime, le sentimental, est aussi une volonté politique. Entre deux êtres qui s'aiment, c'est pas tant des sentiments tombés des nues qui font l'équité d'un couple, leur parité, leur équilibre, c'est aussi la volonté d'égalité. Et donc la volonté devient quelque chose de politique. À quel moment je dois agir de telle façon pour faire en sorte qu'on obtienne l'un et l'autre un relatif équilibre. Donc voilà, ça c'est pour le documentaire. Ensuite, il y a des interventions dans des collèges et lycées. Alors là, je dirais que c'est plus des rencontres citoyennes où on évoque un peu l'état du monde, la citoyenneté, la possibilité de la fraternité ou non. Comme ils ont lu et travaillé mes textes, forcément on en vient aux discriminations, aux injustices du monde. Alors moi, je parle beaucoup des injustices faites aux Maghrébins et aux Noirs, mais il y a aussi des injustices faites aux femmes, celles faites aux ouvriers, aux chômeurs, voilà, aux plus faibles en tout cas. Et donc, il y a dans l'air comme ça l'idée de l'injustice du monde, et en particulier à travers ce que j'ai vécu moi. Et donc je raconte un peu des anecdotes qui expliquent que l'injustice a fait de moi un combattant, et comment je, à travers des textes qui soient ironiques, ou plus tendres, ou plus durs, expliquer mon combat politique à travers mes textes. Donc ça c'est la rencontre. Ensuite je fais des lectures. Alors les lectures sont des textes que j'ai sélectionnés de mes 3 bouquins, Livret de famille, La Trempe, Ma part de Gaulois. En fait, j'ai pris les textes qui sont les plus explicites à l'oral. Et donc, je lis mes textes et ils sont illustrés par une chanson. Chaque fois que j'ai lu un texte, il est suivi d'une chanson, un texte illustré par une chanson. Donc ça, c'est mon spectacle de lecture. Et puis, le concert de samedi. Voilà, où c'est mes 3 derniers albums, des extraits de mes 3 albums solo. Et comme Ma part de Gaulois et mon dernier album ont été inspirés dans un même élan, je fais des retours entre les chansons, des retours, quelques passages courts de mes bouquins. qui relance du coup les chansons. Voilà, et puis en général, je fais une reprise ou de Brassens ou de Brel ou de Pierre Perret ces temps-ci, puisque je l'ai un peu dit aussi, ça aussi. Et comme on dit, ah, Magide, Brassens, Brel. Non, Pierre Perret. Pierre Perret, ils m'ont effacé Pierre Perret. Voilà pour le concert, donc un vaste programme pour cette semaine. Et je remercie Marion, entre autres, qui a bâti ce programme, qui va faire en sorte que je revienne éreinté et maigre à Toulouse.
On vous a beaucoup entendu parler politique. Quelles sont les grandes idées que vous avez envie de transmettre à travers vos textes?
Alors, un politique, il est là pour proposer le bonheur du monde. Il vient avec un programme. Avec moi, ça va mieux se passer. En ce moment, il y en a un qui me donne de l'urticaire, d'autant plus que je suis plutôt de son bord, c'est Jean-Luc M. Je ne prononcerai pas son nom. Il est là, et avec cette espèce d'indécence, à dire « je sais comment on va procurer le bonheur ». Et j'aimerais tellement plus d'humilité. Donc j'attends l'homme de gauche, humble, qui dira « on n'est pas sûr d'y arriver, on va tenter des trucs ». Et là, encore une fois, un mec vient et dit « je sais comment on va faire pour remettre le bonheur et la fraternité en place ». Donc, l'artiste, c'est plus... Il ne propose pas un programme pour rendre le bonheur. Il propose quelque chose de beaucoup plus humble, c'est une évasion. Donc, c'est plus un voyage plutôt agréable, puisqu'il s'agit d'un spectacle. Donc, on a le devoir de rendre le moment agréable, sinon c'est un meeting. Et moi qui ai beaucoup fréquenté les meetings, c'est toujours sérieux. Donc c'est chiant. Et moi j'ai besoin d'être sérieux et d'en rire aussi. Il n'y a qu'un artiste pour faire ça. Me moquer de moi-même, bien sûr.
C'est la première fois que vous venez en Lozère, hein?
Non, on est venu beaucoup. Et notamment les premières années où on jouait dans des petits bars de petits villages comme ça. Alors, j'ai plus les noms de ces petits villages, mais on a beaucoup joué dans des petits endroits. Et finalement, quelqu'un disait tout à l'heure, ça peut être plus vivant un petit bled qu'une grande ville. Mais oui, vous jouez dans un bar de centre-ville de Toulouse, vous avez 15 personnes, et vous jouez par exemple ici, les gens vont venir, vont faire 40, 50 bornes pour voir un spectacle. Et vous allez avoir une salle pleine. Et moi, je sais ça. Dans les milieux ruraux, c'est là aussi qu'il y a aussi le plus d'énergie. Et c'est là que j'ai rencontré les plus beaux militants. Un jour, je suis tombé, dans le Gers, je crois, un village qui était plus palestinien que tous les militants connards que j'ai connus en ville. Eux, ils l'étaient tranquillement et en souriant. Voilà, on défend la Palestine, mais avec tranquillité. Et moi, en ville, je connaissais des tas de connards qui se prenaient pour plus palestiniens que les Palestiniens eux-mêmes. Bon, ça, c'est les trésors de la ruralité.
Merci beaucoup.
Merci à vous.